Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Louis Drillon et Julie Delabrosse. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Élise Leu.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
En ce monde, rien n'est certain, excepté la mort et les impôts. Voilà ce qu'écrivait Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis, dans une lettre rédigée en 1789. Si le paiement des taxes peut en effet sembler inéluctable, il n'en questionne pas moins la légitimité du système fiscal imposé par l'État. Alors qu'est-ce qu'un impôt juste ? Comment expliquer la défiance chronique à l'égard des taxes ? Et quelle conception de l'État la notion de justice fiscale suppose-t-elle ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler du rôle et du sens de l'impôt en compagnie de Michel Forcé, sociologue, directeur de recherche au CNRS et auteur de L'égalité, une passion française, publié chez Armand Collin. En compagnie également de Vincent Drezet, fiscaliste, ancien secrétaire national du syndicat Solidaire Finances Publiques et membre du conseil scientifique d'ATTAC. Et en fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
On a pu constater au cours des deux derniers siècles que la croissance de l'impôt ne s'est pas accompagnée d'une catastrophe ou d'un délabrement de la société, mais au contraire qu'elle a accompagné le développement des services publics, des protections sociales et a également consolidé les formes de redistribution au sein de la société. L'impôt est une forme d'inclusion dans la communauté civique et en même temps on déplore toujours en permanence son caractère, disons, coercitif, puisque le mythe ou l'utopie d'un impôt consenti et librement consenti, évidemment se heurte à la réalité de la relation fiscale quotidienne.
Michel Forcé et Vincent Drezet, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre l'historien Nicolas Delalande, spécialiste de la fiscalité. L'histoire de l'impôt au XXe siècle est indissociable de la naissance et de la consolidation de l'État-providence, Vincent Drezet.
Probablement, en tout cas si on en juge par les débats au XIXe siècle et puis aussi l'impact de la révolution industrielle. Mais on peut dire que fiscalement, le XXe siècle est né en 1914, avec la création de l'impôt sur le revenu, notamment, une forte dimension symbolique. Et que par la suite, et les développements des protections sociales, et notamment avec le plan Larocque à l'après-guerre, coïncide d'ailleurs avec également une réforme dans le financement de la sécurité sociale, mais aussi une réforme fiscale en 1948. On peut dire que le développement de l'État-providence, de l'État social, comme on peut le nommer parfois, est consubstantiel à l'histoire, à l'évolution de la fiscalité, plus largement du rôle des prélèvements obligatoires, puisqu'il ne faut pas oublier que vous avez la fiscalité, mais aussi les ressources sociales qui participent de cette dynamique.
Alors à partir de quand émerge véritablement cette idée selon laquelle le système fiscal doit permettre l'avènement d'une société plus juste, plus égalitaire ? Cela commence véritablement dans les années 20 ?
Alors, si on allait plus loin, mais je crois que c'est le sujet d'hier, on peut remonter à 1789, voire même avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les débats à la fin du 19e siècle, entre notamment Thiers et Jaurès, ce qui a amené à la création de l'impôt sur le revenu avec un paradoxe, c'est que l'impôt sur le revenu est né à la veille de la guerre, puisqu'il y avait aussi la question de l'effort national. Mais on peut dire que entre 1914 et 1920, s'installe véritablement l'impôt sur le revenu. Pour exemple, l'impôt sur le revenu était constitué notamment d'une partie progressive. Le taux le plus élevé était 2% en 1917. En 1918, il est déjà de 20%, à la fois parce qu'il y a des besoins en termes d'efforts de guerre, mais puisque finalement, l'impôt progressif s'installe. Donc, c'est une période charnière dans l'histoire fiscale française, c'est sûr.
Et alors, après 1945, selon Thomas Piketty, l'impôt sur le revenu n'est plus contesté de la même façon, et les taux d'imposition varient nettement moins. On peut dire qu'à ce moment-là, la progressivité de l'impôt ne fait plus vraiment débat ?
Plus vraiment débat ni en France ni ailleurs, parce qu'on pourrait rappeler le New Deal également aux États-Unis qui a amené à des taux les plus élevés du barème de l'impôt sur le revenu, très élevés. En Grande-Bretagne également, ils ont dépassé fréquemment les 90%, et en France, il est monté progressivement jusqu'à 65% en 1982. C'est ensuite qu'il a décliné sous notamment l'offensive qu'on peut qualifier de libérale, entre guillemets, qui a remis en cause le rôle de l'État et par conséquent le rôle de l'impôt. Mais il est vrai que durant les 30 Glorieuses, il y a une forme de dynamique, un dynamisme économique lié notamment à la reconstruction, mais pas seulement, un développement de la protection sociale. Bref, une période où les inégalités se réduisent en partie du fait de l'impôt, mais aussi en partie du fait de l'extension du modèle social, comme on le dit, même si le terme est impropre.
Et alors, si on veut finir cette rapide esquisse de l'histoire de l'impôt au XXe siècle avec vous, Vincent Drezet, on peut dire qu'on assiste à un retour en force que vous situez aux années 80 de l'idée selon laquelle l'impôt est une atteinte à la propriété privée. C'est la fameuse conception du libertarien Murray Rothbard qui dit « l'impôt, c'est le vol ».
Oui, mais c'est d'ailleurs quelque chose qui a en fait toujours existé, mais qui a été un peu plus visible parce que ça s'est traduit dans des forces qui étaient au pouvoir. Mais Proudhon ne disait pas autre chose, et au XIXe siècle, les conservateurs bataillaient contre l'impôt progressif et contre le contrôle fiscal en disant c'est du vol, c'est de l'inquisition. Donc finalement, ces forces ont retrouvé une certaine vigueur. On situe le symbole, c'est l'avènement de Thatcher et Reagan qui ont porté l'idée de la contestation du rôle de l'État et de l'impôt, notamment de l'impôt progressif. Et puis ça correspond aussi à une période où se développe l'internationalisation des échanges, qu'on a appelé ensuite la mondialisation, et la concurrence fiscale et sociale qui va avec. Et sous l'impact de cette concurrence fiscale et sociale, on a assisté partout, et c'est d'ailleurs un sujet qu'aujourd'hui on paye encore d'une certaine manière, à une diminution des impôts, notamment des impôts progressifs, mais globalement des impôts directs, et notamment des impôts directs qui pesaient sur ce qu'on appelle les bases mobiles, c'est-à-dire ceux qui peuvent se déplacer, qu'on soit un riche particulier ou une grande entreprise. Donc il y a eu un retournement dans les années 80, progressif avec des heurts et aussi de temps en temps des petites corrections, avec la création de l'ISF par exemple en France en 1989, mais globalement la tendance s'est installée et elle est toujours là.
Alors, vous l'avez dit, donc c'est à partir du XXe siècle qu'on considère l'impôt comme cet outil censé permettre une juste redistribution des richesses. Mais ce qu'on constate dans la réalité, Michel Forcé, c'est un décalage entre cette vision et un sentiment d'inégalité persistant en France.
Oui, tout à fait. La perception des inégalités, elle est forte en France. Dans une enquête, on avait posé des questions sur des différents types d'inégalités, inégalités de revenus, inégalités face à l'emploi, inégalités entre les genres, inégalités, etc. Et ce qui apparaissait comme étant le plus fort, et donc la principale préoccupation, ce qui était perçu comme le plus fort dans la société française, c'était les inégalités de revenus. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'avec cette même batterie de questions, ensuite, on l'avait demandé quelles étaient parmi ces inégalités. Il y en avait 12, je les cite pas toutes. Celles qui semblaient les plus acceptables ou inacceptables pour vous.
Oui, ce que vous expliquez bien, c'est que certaines inégalités sont considérées comme plus ou moins injustes.
Voilà. Et là, alors qu'on voyait que les inégalités de type, disons, identitaire, pour aller vite, donc liées au sexe ou liées à l'origine ethnique, etc., étaient considérées comme pas trop fortes dans la société, c'était au contraire celles-là qui étaient considérées comme les plus inacceptables, alors que les inégalités de type plus économique, face à l'emploi, de revenus, etc., étaient considérées comme plus acceptables.
Alors, dans la pensée économique dominante, l'égalité est considérée comme l'ennemi de l'efficacité. Alors, en tentant de remédier aux inégalités, est-ce que l'impôt, finalement, serait contre-productif sur le plan économique, Vincent Drezet ?
C'est un discours qui a, là encore, du 19e siècle jusqu'à nos jours, traversé les époques. On entend fréquemment que, par nature, un prélèvement joue contre l'activité économique. Alors, on pourrait dire que les faits ont démenti cela. Le développement de l'économie n'a pas été, a accompagné celui du système fiscal et réciproquement, tout simplement parce que l'impôt joue un rôle économique. L'impôt, c'est quoi? C'est un prélèvement qui est d'une somme qui est réinjectée automatiquement. Évidemment, la question de la répartition, est-ce qu'on fait contribuer plus ou moins les plus riches et les plus pauvres, est au cœur du débat. Par exemple, si on fait contribuer davantage les plus pauvres, eh bien, on va avoir un problème de demande et donc un problème d'activité économique. Mais depuis quelques années, c'est plutôt l'inverse qui est porté. C'est-à-dire, on dit ne taxons pas trop les plus riches parce que, grâce à l'effet de ruissellement, ils font tourner l'économie, ce qui est également très contestable.
L'argument du philosophe John Rawls, par exemple, c'est de dire il faut une égalité des chances au départ, mais après, l'inégalité de revenus permet de récompenser les méritants.
Oui, et à l'inverse, vous avez des libéraux, j'allais dire vraiment historiques, qui considèrent qu'il faut remettre les compteurs à zéro, notamment au niveau des successions, pour créer véritablement une vraie égalité, alors pour le coup des chances, ce que ne portent pas les libéraux d'aujourd'hui, par exemple. Mais on voit bien que c'est un débat qui traverse les sensibilités, c'est bien chez les conservateurs, les libéraux, les socialistes, etc., sur cette question d'égalité des chances. Moi, je laisserai Michel Forcé poursuivre, mais il faut bien voir que la théorie dominante d'aujourd'hui qui consiste à dire ne taxons pas globalement, qu'il s'agisse du patrimoine, des revenus ou des bénéfices des sociétés, les acteurs économiques les plus aisés, on va dire comme ça, ne correspond pas forcément aux idéologies, j'allais dire anciennes, notamment libérales, qui considéraient qu'il fallait que chacun ait à peu près le même niveau de revenus, de patrimoine, en tout cas sur la ligne de départ, et que de ce point de vue-là, par exemple, il fallait taxer les successions, ce que certains grands milliardaires américains ont rappelé d'ailleurs il y a une dizaine d'années à George Bush lorsqu'il voulait supprimer les droits de succession.
Michel Forcé.
Oui, je voulais revenir sur la position de John Rawls, qui est un des philosophes les plus importants de la dernière partie du XXe siècle sur ces questions-là, bien sûr, américain, professeur à Harvard. C'est pas tout à fait sa position, celle que vous avez, si je peux me permettre, celle que vous avez. Il dit bien, il faut une égalité des chances, bien entendu, mais il dit pas ensuite, et donc ensuite, on pourra récompenser les plus méritants, parce qu'au contraire, il est très critique du principe du mérite. Il pense que le principe du mérite, ça définit des sociétés méritocratiques qui l'opposent aux sociétés démocratiques dans lesquelles ce principe du mérite n'est pas un principe cardinal. Et ça l'oppose d'ailleurs aux libertariens, justement, sur ce plan-là. Lui, ce qu'il dit, par contre, c'est que il est vrai que on peut pas dire que toutes les inégalités économiques, on parle d'économie là, sont injustes. Elles ne sont injustes. Une augmentation d'inégalité économique n'est injuste que si elle n'est pas à l'avantage maximum des plus démunis. C'est ce qu'il appelle le principe de maximisation du revenu des plus démunis.
Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ?
Il dit qu'il faut que on peut accepter une augmentation de l'inégalité si le sort des plus démunis, des plus mal lotis, se trouve le meilleur possible et le plus élevé possible. Donc c'est intéressant parce que dans les enquêtes que je faisais, je voyais bien ces deux conceptions, ces deux regards des gens sur l'inégalité. Soit on porte attention à l'écart qu'il y a entre le haut et le bas, et c'est ça le critère principal qui fait qu'on dit qu'il va y avoir plus ou moins d'inégalité. Ou bien on se focalise moins sur l'écart et on regarde d'abord qu'est-ce qui se passe tout en bas. Et c'est ce qui se passe tout en bas qui fait qu'on aura un jugement, je parle des gens là, dans les enquêtes, un jugement plus ou moins sévère sur l'injustice et les inégalités dans la société. Donc c'est deux choses différentes.
L'argument qui est souvent mobilisé contre l'impôt, c'est l'idée que l'impôt ne doit pas être confiscatoire pour ne pas décourager à la fois le travail et l'entreprise individuelle. Il y a eu une étude de la banque d'investissement Natixis qui est parue en février 2018 qui disait que la forte pression fiscale serait directement corrélée avec un taux de chômage élevé. Donc là encore, c'est un argument qui est beaucoup mobilisé, Vincent.
Oui, alors, mais il y a toujours un argument en contre-argument. Quand on parle, parce que là, on parle d'impôts au sens large, donc il faudrait resituer dans le paysage fiscal et voir s'il est vraiment redistributif ou pas. Souvent, les passions se concentrent sur les impôts sur le patrimoine ou l'impôt sur le revenu parce qu'il est progressif. Et donc, il y a deux thèses, globalement. Il y a ceux qui disent, mais si on prend trop aux plus riches, ils vont pas pouvoir investir, créer de l'emploi, créer de l'activité économique. Donc, cette école de pensée consiste à dire, eh bien, il faut donc alléger ces impôts-là pour leur permettre d'investir et de créer des emplois. C'est un peu ce qu'Helmut Schmidt disait en disant, faut favoriser les profits d'aujourd'hui parce que sur les investissements de demain, les emplois d'après-demain. Sauf qu'empiriquement, ça ne s'est pas vérifié. Mais il y a une autre école qu'il faut rappeler, et c'est peut-être d'ailleurs une vision qui n'a pas été assez portée historiquement, qui est de dire la progressivité n'est pas simplement un principe généreux de dire bon, on va imposer davantage les plus riches et puis accessoirement ça permettra de diminuer les inégalités. Il faut rappeler qu'il y a une réalité entre guillemets économique. Les économistes qui étaient favorables à la progressivité disaient bon, c'est la théorie de l'utilité marginale décroissante des revenus. En clair, plus on gagne, moins ça sert. Parce que la proportion à épargner s'accroît, y compris dans le monde de la finance actuellement, ça peut même être très déstabilisant en termes de spéculation. Donc, il est compris économiquement justifié d'aller taxer les plus riches, qui permet de moins imposer les plus pauvres et de soutenir la demande. Et tout cela est bon en termes d'activité économique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant sur la question des inégalités au sens large, c'est que on voit bien que même les institutions internationales, la FMI, l'OCDE, la Banque mondiale, s'alarment quand même du niveau des inégalités dans le monde en disant c'est contre-productif sur le plan économique. Donc peut-être on est allé plus loin et sans doute même que le système fiscal en France et ailleurs ne joue pas assez son rôle de redistribution.
Donc ce que vous dites, c'est qu'on n'aborde pas assez les arguments économiques et les avantages Absolument. Économiques de l'impôt progressif. Alors ça pose aussi la question de la valeur en économie, parce qu'il faut, si l'on veut savoir ce qu'il faut taxer, alors est-ce que cette valeur correspond au temps de travail ou au temps de formation nécessaire pour produire un bien ? Là encore, il y a beaucoup de débats autour de cette question, Vincent Drezet.
Oui, puis on peut même élargir, c'est-à-dire que Une des grandes questions qui n'est pas posée en tant que telle aujourd'hui lorsque on parle de réduction de la place de l'État et de la protection sociale, c'est parce qu'on pense précisément que l'État et la protection sociale ne créent pas de richesse. À tort d'ailleurs, y compris c'est mesuré dans la comptabilité nationale. Mais pourquoi? Parce qu'on a offert, on a affaire à une offensive de force, on va dire, qui pense que si elle gérait en tant qu'intérêt privé une partie de la protection sociale ou une partie des services publics, ça contribuerait au dynamisme économique. En réalité, ça contribuerait surtout à dégager leurs profits et puis se poserait des questions d'égalité d'accès, puisqu'évidemment, lorsqu'on parle d'un système public à un système privé, les conditions d'accès ne sont pas les mêmes et ça accroîtrait les inégalités. Et puis, on peut l'élargir également à la question du numérique. C'est un débat qu'on retrouve, c'est très philosophique au fond aujourd'hui, sur la taxation du numérique, puisqu'on voit bien qu'il y a un système d'optimisation fiscale, mais on repart de l'idée de la réalité économique où sont les marchés, où se crée la valeur. Typiquement, lorsqu'il y a une plateforme en Irlande avec des clients en France, la valeur se crée en France, sauf qu'elle est imposée ailleurs. Donc, ce débat, encore une fois, qui traverse le temps à la faveur de l'évolution de l'économie.
La notion, en tout cas, de juste redistribution pose une question essentielle. Comment déterminer qui a besoin de quoi, Michel Forcé, car le problème, c'est que les critères considérés comme légitimes sont très divers.
Oui, alors c'est très difficile effectivement de savoir qui a besoin de quoi. Il y a dans les débats entre philosophes, il y avait un fameux débat autour du fameux surfeur de Malibu. Est-ce que voilà, qui ne fait que du surf, qui vit un peu de l'air du temps, est-ce qu'il faut qu'il ait droit à toutes les assistantes, toutes les aides ou pas? Enfin, ça a donné lieu à des débats très longs là-dessus. Alors c'est vrai, les critères. Il y en a beaucoup. Mais il y a un psychosociologue dans les années 70-80 qui a non seulement lui-même avait fait ses propres études, mais qui avait essayé de faire un survey de toute la littérature, de tout ce qui se faisait en termes d'expérimentation en psychosociologie. Il s'appelait Morton Dodge et il disait en gros voilà ce qu'on trouve dans l'ensemble de la littérature. On met tantôt l'accent sur le principe de besoin. C'est-à-dire voilà, c'est en fonction du besoin qu'on doit faire une répartition du besoin des gens. Donc ça revient à votre question. Il y a le critère d'égalité évidemment. Ça doit être un partage égalitaire. Et il y a le critère d'équité ou de mérite, parce que les outputs doivent être proportionnels aux inputs, on peut le dire de mille façons. Voilà les trois. Et il essayait de montrer que donc besoin, mérite, égalité, ça correspondait à des situations sociales ou économiques différentes, quoi. Voilà, quand on est entre amis, quand on partage l'addition au restaurant, bon, bah, c'est le principe d'égalité, sauf s'il y en a un qui n'a rien mangé. Mais bon, voilà, c'était ça.
Donc le besoin, l'égalité et le mérite, selon Morton Dutch. Et alors la question qui se pose, qu'on commençait aussi à évoquer tout à l'heure, c'est l'impact de l'impôt et des différents impôts sur l'économie réelle. Et notamment, l'impôt a-t-il, par exemple, des effets nocifs sur l'épargne et sur les investissements directs, Vincent Drezet?
Ça dépend de la politique fiscale qui est menée. Si on regarde aujourd'hui le paysage fiscal français, on a coutume de dire il y a des prélèvements obligatoires importants, ça nuit à l'épargne, ça nuit à l'activité économique. On peut avancer au moins deux choses. C'est que déjà, le niveau d'épargne en France est très élevé. C'est un des plus élevés des pays occidentaux. Se pose ensuite la question de la stratégie fiscale en matière d'épargne. Est-ce qu'il faut favoriser l'épargne de précaution, les livrets réglementés, ou au contraire, rediriger l'épargne vers les actifs plus risqués, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs dans la culture française. Plusieurs gouvernements se sont attelés à prendre des mesures fiscales particulières sous forme d'abattement, voire d'exonération ou de crédit d'impôt pour favoriser le déplacement de l'épargne vers les actions, pour le dire autrement, que vers les obligations, les livrets réglementés. Et ça se heurte aussi à une dimension culturelle. En clair, ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que l'impôt n'a pas joué un rôle anti-économique. Mais ça va faire hurler peut-être des libéraux aujourd'hui, mais sur une tendance longue, on peut le démontrer. Et la dramatisation de certains débats sur la question de l'exil fiscal, par exemple, montre que la réalité est bien plus complexe et bien différente. En tout cas, l'impôt joue un rôle économique et social, et effectivement, en fonction de la politique fiscale, eh bien, il y aura parfois plus d'inégalités, il peut y avoir des déplacements de la charge fiscale sur c'est un peu ce à quoi on assiste depuis quelques années, sur notamment les classes moyennes, pour le dire rapidement, ce qui accroît à la fois le sentiment d'injustice, mais ce qui accroît également l'inégalité réelle devant l'impôt, ce qui peut avoir un impact économique. Il y a vraiment beaucoup de questions d'idéologie, même si tous les gouvernements le refusent, ça reste quand même une question d'idéologie, un choix politique.
Et cependant, pour vous, Vincent Drezet, le système fiscal français tel qu'il existe actuellement n'est pas juste parce que vous considérez que le système est trop faiblement redistributif à l'heure actuelle et parce qu'il est trop faiblement progressif ?
Absolument. Au regard des objectifs assignés à la politique fiscale, qui sont notamment de réduire l'inégalité et de financer l'action publique, on est loin du compte. Dans le circuit économique, on distingue traditionnellement trois étapes. La distribution primaire des revenus et des patrimoines, on va dire que c'est l'état des richesses distribuées, enfin, notamment les salaires, les pensions, les patrimoines avant impôt. Et puis intervient l'impôt. Et normalement, entre la situation avant et après impôt, on doit avoir une correction des inégalités importante. Tout cela permettant de dégager des ressources pour financer l'action publique. Et puis ensuite, il y a la redistribution sociale, c'est-à-dire à la fois les services publics gratuits ou quasi gratuits, mais aussi les prestations sociales, etc. Aujourd'hui, à peu près tout le monde s'accorde à dire que dans la réduction des inégalités, l'impôt joue un rôle minoritaire. Environ le tiers de la réduction des inégalités provient de l'impôt. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà une TVA qui représente la moitié des recettes fiscales de l'État. Mmh. D'autres impôts sur la consommation, on en parle en ce moment, notamment les taxes sur le diesel, etc., qui sont des impôts proportionnels.
On va revenir sur les impôts indirects.
Voilà. Et puis le poids des impôts directs et minoritaires l'a toujours été, notamment l'impôt sur le revenu. C'est une caractéristique française d'ailleurs. Au milieu des pays de l'OCDE, on a un poids de l'impôt sur le revenu particulièrement faible pour plusieurs raisons. À la fois, il est calculé sur un revenu qui est diminué des cotisations sociales, mais il y a également le quotient familial et il y a également un grand nombre de niches fiscales. Et tout ça, in fine, fait que l'impôt sur le revenu représente moins du quart. Or, le seul impôt progressif du système fiscal est un impôt minoritaire, ce qui explique donc que la redistribution fiscale est très faible en France.
Et vous dites même qu'on assiste depuis les années 2000 à un long affaiblissement de cet impôt sur le revenu.
Oui, certains pays, on disait tout à l'heure... aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ont commencé assez, plutôt que nous, à baisser les taux d'imposition sur les plus aisés. Nous, il y a un tournant, pour le dire, on était au début des années 80, le taux le plus élevé était à 65%. On était encore à 54, même 56% à la fin des années 90. Aujourd'hui, on est à 45%, après un passage entre 2006 et 2009 à 40%. Donc, il y a eu effectivement un effondrement du taux le plus élevé. Par quoi ça s'est traduit ? Les personnes qui étaient imposées dans les plus hautes tranches, qui voyaient une part de leurs revenus imposée dans les plus hautes tranches, ont donc gagné du pouvoir d'achat, si j'ose dire, en réalité du pouvoir de placer. Le pouvoir de placer qui leur a généré des revenus, qui eux-mêmes étaient moins imposés. Il y a un effet de dynamique des inégalités. Donc la politique fiscale, depuis les années 2000, a accompagné, favorisé les inégalités de revenus et par suite donc de patrimoine, parce que les revenus sont placés et constituent un patrimoine.
On l'entend bien, l'impôt qui paraît le plus juste, c'est l'impôt progressif. Et c'est pour cette raison que le prélèvement forfaitaire unique instauré par Macron, donc cette fameuse flat tax, a été autant décrié, parce qu'il s'agit d'un impôt proportionnel et non pas progressif.
Oui, c'est-à-dire que la genèse de l'impôt sur le revenu, c'était des impôts par catégorie. Puis en 1948, on a imposé tout ça dans un grand tout, l'ensemble des revenus des personnes physiques. Le principe, on pourrait par extension dire le principe d'égalité devant l'impôt, devrait être de dire tous les revenus sont taxés selon le même barème. On met de côté les niches fiscales qui viennent fortement atténuer la réalité de l'imposition. Mais ce principe-là a déjà été, parce qu'il y avait déjà un prélèvement libératoire avant qui existait, a déjà été écorné. Et avec le prélèvement forfaitaire unique, là également, un certain nombre de revenus, on va le dire rapidement, les revenus financiers, sont imposés à un taux proportionnel. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de progressivité sur les revenus financiers qui sont très dynamiques, qui sont perçus notamment par les plus aisés. Ça a eu plusieurs conséquences. Un manque à gagner de 5 milliards d'euros. Un accroissement du revenu disponible de ceux qui perçoivent ce type de revenu, or sont majoritairement des personnes aisées, ce qui accroît le sentiment d'injustice. Et in fine, pour le dire rapidement, on a plutôt tendance à favoriser la financiarisation que l'investissement. Il y avait peut-être d'autres choses à faire pour favoriser l'épargne longue, par exemple, et les investissements réellement utiles.
Donc ce que vous dites, c'est que ça alimente les inégalités, puisque les plus aisés voient leur impôt diminuer, alors que pour les plus pauvres, en fait, cela ne change rien pour ce qui concerne vraiment ce prélèvement forfaitaire unique.
Absolument, et quand on regarde d'ailleurs plus précisément les statistiques, on s'aperçoit que le 0,1% des Français les plus riches a un taux d'imposition qui est aux alentours de 20%, loin des 45% que le barème affiche.
Salut mec, ça va ? Tu vas bien ? On se présente ? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout.
Le loto, c'est nous.
Le bingo,
c'est nous.
Le tiercé, le quarté, le quinté,
c'est encore nous.
Le quinté plus.
On te reçut. Faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout.
T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean.
Majoration relevée, vignette et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto, droit d'immatriculation, PV, crash, crash, essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage,
on est là à tous les étages.
Les frères qui rappent tout.
Je t'offre un pot. Eh oui, un pot. Un pot fiscaux. Un pot locaux. Un pot direct et un pot indirect.
Un pot foncier. Un pot rentier. Un pot sur les grandes fortunes. Un pot même si t'as pas de thunes.
Un pot sécheresse. Un pot richesse. Un pot nouveau. Un pot rétro. Un pot recto. Un pot verso. Un pot sur le revenu. Un pot sur les revenants.
Les Inconnus et leur célèbre Rap Tout, sorti en 1991. Le collecteur d'impôts, présenté ici comme un vampire, ce n'est pas vraiment une image nouvelle, Michel Forcé?
Je sais pas, j'ai pas fait d'enquête sur l'image du collecteur d'impôts, à vrai dire. Donc, je sais pas si les gens le voient vraiment comme un grippe-sous, je sais pas comment faut dire.
C'est peut-être pas un hasard si cette chanson sort dans les années 90, Vincent Drezet.
Oui, on peut citer aussi Raymond Devos avec le hurlement du percepteur. Bon, il y a toujours eu une tradition un peu, je vais pas dire libertaire, mais un peu anti-État, un peu qui s'exprime en plus plus ou moins avec humour. Après, ce qu'il faut reconnaître, c'est que pendant longtemps, l'administration de manière générale n'avait par exemple pas motivé ses actes, et ça jusque dans les années 70-80, c'était souvent très mal ressenti. Puis il y a eu un basculement aujourd'hui, on peut le dire, notamment en ce qui concerne les services fiscaux, on est plutôt reconnu, je dis « on » parce que ce sont mes collègues, reconnu comme un service public efficace. Mais pour autant, la petite musique du contrôle fiscal, soi-disant inquisitorial, quand on tient ce discours, ça permet d'oublier que, par exemple, il peut y avoir de la fraude fiscale et que les services fiscaux soient là pour la débusquer. Cette petite musique qui existait déjà à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, j'y reviens parce que souvent ces arguments-là perdurent et on le voit encore aujourd'hui dans certains mouvements. Il y a cette notion qu'il faut en finir avec le contrôle fiscal parce que c'est inquisitorial, parce que c'est intrusif, etc. Et donc, encore une fois, cette idéologie a traversé le temps, elle s'exprime plus ou moins différemment, mais il est frappant de voir que certains arguments qu'on a entendus au moment où de l'ISF, un peu avant sa suppression, ou sur le contrôle fiscal, sont finalement les mêmes que les conservateurs du 19e siècle tenaient déjà il y a bien longtemps.
Alors nous sommes toujours avec Michel Forcé et Vincent Drezet pour parler de justice fiscale sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Et j'aimerais maintenant qu'on en vienne aux impôts indirects. Et d'abord, je vous propose d'écouter Jacques Chirac lors du débat qu'il opposait à François Mitterrand en 1988.
J'ai diminué la TVA sur l'automobile. Ça fait 3000 francs par automobile, 2000 francs par moto. Ça intéresse beaucoup de monde. Je l'ai supprimé, ou plus exactement diminué, et je poursuivrai, sur les disques et les cassettes. Aujourd'hui, vous savez, c'est 13 à la douzaine. On peut obtenir 13 disques pour le prix de 12. C'est un progrès. Qu'est-ce que vous aviez fait, vous? J'ai la liste des impôts que vous avez augmentés. C'est impressionnant. Et je vous en ai voulu à l'époque, non pas pour des raisons personnelles, naturellement. En 1984, vous avez plus que doublé le taux de la TVA sur les aliments pour les chiens et les chats. Comme si ce n'était pas essentiellement un nombre considérable de personnes modestes et souvent seules qui ont des animaux de cette nature et qu'on a fait cette ponction injuste sur leurs revenus. C'est vous dire que tout était bon. Alors ne me parlez pas de justice sociale.
Voilà, Jacques Chirac dénonçant la hausse de la TVA par François Mitterrand. Une réaction à cet extrait que l'on vient d'entendre?
Oui, mais
Michel Forcé.
Les Français connaissent mal les impôts, la structure des impôts, la façon dont c'est calculé, etc. Il y a une exception, c'est la TVA. Parce que c'est un impôt simple, finalement, assez simple, c'est un taux, voilà. Ça, ils le connaissent assez bien. Et c'est vrai que, bon, alors, ça n'échappe pas à la critique, évidemment, que, d'une manière générale, les impôts et les taxes sont trop lourdes, sont trop fortes en France, etc.
On considère souvent que les impôts indirects, à commencer par la TVA, sont profondément injustes, Vincent Drezet.
Mais si on s'en réfère à ce que pèse la TVA, effectivement, dans le budget des ménages, statistiquement, mathématiquement, le rapport entre la TVA payée et le revenu diminue au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie des revenus. Bien sûr, quelqu'un qui va gagner le SMIC paiera moins de TVA en valeur absolue qu'une personne qui gagne 100 000 euros. Simplement, le pourcentage de son revenu qu'il va consacrer à TVA va être plus élevé qu'une personne qui gagne 100 000 euros ou plus. Pourquoi ? Parce que plus on gagne, plus on épargne et moins on consomme. Mais moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Michel Forcé. L'extrait révèle aussi une forme de pauvreté du débat politique. Voilà, les responsables politiques sont dans leur temps, dans leurs intérêts. Et in fine, ce dont on s'aperçoit, c'est que la question de la pédagogie de l'impôt, elle n'est pas menée de fait, ou très peu, par les responsables politiques, ce qui amène une forme d'incompréhension, parce qu'on ne sait pas véritablement ce qu'on paye. Et dans la période récente, on assiste plutôt à une défiance, une crise des institutions, une crise démocratique. Enfin bon, il y a plusieurs termes pour définir cette défiance par rapport aux responsabilités politiques. Mais finalement, on n'a plus confiance. On se dit que les choses sont toujours en notre défaveur. Sur un certain terme, c'est pas, malheureusement pas tout à fait faux. C'est-à-dire que la question des injustices globales, elle est très présente. La question donc de l'incapacité ou du manque de volonté des responsables politiques, quels qu'ils soient, y répondre, est présente. Et ça donne une situation qu'on connaît en France et ailleurs.
Vous évoquiez tout à l'heure, Vincent Drezet, l'impôt sur la fortune, l'ISF, qui est devenu l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. D'abord, cet ISF, en quelques mots, à quand remonte cette volonté de taxer les plus riches ? Dans quel contexte est-ce que cela s'inscrit ?
Il y a deux étapes. Il y a l'arrivée de la gauche au pouvoir en mai 1980 et la création de l'impôt sur les grandes fortunes, qui a été aboli par Jacques Chirac en 86. Et puis, en 1988, quand Michel Rocard, Premier ministre, a été assez malin, on va le dire, pour à la fois créer l'ISF, en disant que ça permettrait de dégager des recettes pour financer le revenu minimum d'insertion qui était créé concomitamment. Donc, il y avait une forte dimension symbolique dans l'idée de la redistribution, même si en réalité, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Mais il y avait, on va faire contribuer les plus riches pour payer les plus pauvres. Et puis, donc, l'ISF a vécu avec énormément de polémiques sur la question notamment de l'exil fiscal, qui est en réalité minoritaire, bref, et on a assisté donc à sa suppression l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir le parallèle entre 2017, 2012 et 2007. Les débuts de quinquennat sont très révélateurs d'une orientation fiscale. En 2007, on avait notamment le bouclier fiscal, mais déjà un allègement de l'impôt sur la transmission des patrimoines. En 2012, François Hollande avait procédé à un relèvement de 40 à 45% du taux le plus élevé du barème de l'impôt sur le revenu. Et en 2017, et Emmanuel Macron a supprimé l'ISF et diminué l'imposition, notamment des dividendes, avec le prélèvement forfaitaire unique, aussi diminué l'impôt sur les sociétés. Donc ce sont des marqueurs politiques. Ils sont peu expliqués, y compris par leurs supporters, mais le grand vide reste, quel est le rôle de l'impôt ? Est-ce que serait une société sans impôt ? Parce que ceux qui disent qu'il faut moins d'impôts, moins d'État, très bien, mais comment on prend en charge les besoins ? Qui va les prendre en charge et combien ça va coûter ?
Alors on va revenir sur les effets et les intentions autour de l'impôt sur la fortune immobilière, mais d'abord il faut dire que le débat autour de l'ISF avait notamment lieu dans les années 70 et le Premier ministre Raymond Barre s'était alors fermement opposé à cette mesure. Écoutons la réaction de Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français. Nous sommes en 1976.
La France profonde, je l'ai regardé hier soir à la télévision avec Barre. La France profonde, elle a chaleureusement applaudi quand il a dit pas d'impôt sur la fortune, la France profonde.
C'était la France en manteau de fourrure.
C'est-à-dire qu'ils veulent réaliser chez nous ce que Callaghan a fait en Grande-Bretagne, c'est-à-dire il a réduit le pouvoir d'achat des travailleurs de 7%. Il y a l'affirmation ici, ouverte, n'est-ce pas, que le pouvoir d'achat des travailleurs sera abaissé de tout le monde. Ben oui, de tout le monde. Mais nous, on veut abaisser, c'est le pouvoir d'achat des riches, vous voyez. C'est ça qui nous différencie, pour augmenter celui des pauvres.
Ce qu'on entend, Michel Forcet, c'est que la notion de solidarité entre les plus pauvres et les plus riches est ici au cœur du débat autour de l'impôt sur la fortune.
Oui, elle est. Alors, l'impôt sur la fortune, le problème, c'est qu'on est un peu gêné quand on pose des questions sur l'impôt sur la fortune dans des enquêtes, parce que la plupart des gens ne le paient pas. Mmh. Et que, évidemment, le meilleur impôt, si je puis dire, c'est celui qu'on ne paie pas soi-même. Hein, pour les gens.
C'était 350 000 personnes qui le payaient en 2016, l'impôt sur la fortune.
Voilà. Donc, évidemment, c'est compliqué, là, parce que forcément, on va trouver une majorité de personnes qui sont pour l'impôt sur la fortune, ou voire pour les filles. Ceci dit, la France est quand même un des seuls pays à avoir ce type d'impôt. Il y a d'autres façons d'imposer le patrimoine. C'est pas la seule modalité. On peut penser à une réforme complète de la taxe foncière, par exemple, qui est par contre moins élevée que dans d'autres pays européens, etc. Donc on pourrait évoluer sur cette question par certaines réformes, je pense.
Mais pour vous, ces débats, en particulier autour de l'impôt sur la fortune, montrent bien la dimension hautement symbolique des choix fiscaux.
Ah bah oui, bien sûr, elle est extrêmement extrêmement symbolique pour les Français, bien sûr. C'est un impôt. Alors l'idée, c'est que une majorité de Français pense que on pourrait encore augmenter l'impôt sur les plus riches. Donc ça, c'est clair, ça se dégage assez nettement. Par contre, quand on leur dit que il y a en France, en gros, quand on se concentre sur l'IR, hein, parce que là, on parle des impôts généraux, quand on se concentre sur l'impôt sur le revenu, il y a en gros une moitié des foyers fiscaux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, ça avait augmenté un petit peu récemment. Là, ils sont très... Et donc, ça perd sa progressivité, puisque quand vous êtes tous au taux zéro, il n'y a plus de progressivité entre zéro et zéro. Là, ils sont très partagés entre l'idée qu'on pourrait imposer tout le monde, même de façon symbolique pour un euro, je dirais presque. Alors, ça coûterait cher en recouvrement, mais bon, c'est autre chose.
Et pour réintroduire une progressivité.
Là, ils sont partagés. Je suis à peu près, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est en gros, c'est 50-50. Rester dans la situation actuelle, voire l'accentuer, ou bien revenir à une progressivité, même si elle est, on parlait de symbole, donc même si elle est symbolique d'une certaine façon.
Mmh. Et alors, qu'est-ce que change l'impôt sur la fortune immobilière qui a donc remplacé l'ISF? Quels sont les questionnements que ce nouvel impôt soulève, Vincent Drezet?
La principale question, c'est son efficacité et son objectif. Quand Emmanuel Macron a décidé de supprimer l'ISF pour créer un impôt sur la fortune immobilière, il a argué du fait qu'il fallait taxer la rente immobilière, en oubliant au passage qu'on peut appeler la rente financière, puisqu'aujourd'hui, les revenus, les personnes les plus aisées, la majorité de leurs revenus viennent pas des revenus immobiliers, ni même des salaires, mais vient notamment des dividendes, des revenus d'obligation, ce qu'on appelle globalement les revenus financiers. Donc déjà, à la base, le débat était un peu biaisé, puisqu'on oubliait tout un pan de ce qui contribue à la dynamique des inégalités, qui était également une base imposable pour financer l'action publique. Donc ça relevait plutôt du symbole, c'était sans doute un pari du nouveau président, en disant, bon, on va favoriser l'économie, mais continuer à taxer les plus riches. Le pari était loupé, parce que on a bien senti effectivement que l'ISF, même s'il était peu rentable, s'il était tout à fait perfectible, et qu'on pouvait effectivement taxer le patrimoine sous d'autres formes, le pari politique a été loupé, mais là encore, voilà, c'était un pari politique, il n'y a pas eu de pédagogie. Mais encore une fois, y compris sur ces profondes orientations qu'on peut combattre par ailleurs, il n'y a pas eu de pédagogie, parce qu'à la base, la pédagogie... Alors, ce qui est assez curieux, d'ailleurs, la pédagogie de l'impôt est très, très peu répandue, et malgré tout, il y a une forme de tradition française de dire, bon, on a une histoire fiscale, une histoire sur les services publics, la protection sociale, cette toile de fond n'est jamais perdue. Mais là, depuis quelques années, on le voit dans les enquêtes d'opinion, les Français ont tendance à s'éloigner de l'idée qu'on pourrait maintenir un certain niveau d'imposition pour avoir une forme de protection sociale et de services publics. Au contraire, il y a plutôt un affaiblissement et par conséquent un affaiblissement du consentement à l'impôt.
Vous parlez d'efficacité économique, Vincent Drezet. L'un des objectifs de la taxation du patrimoine, c'est de lutter contre les rentiers. L'objectif, c'est que l'argent circule.
Oui, Keynes disait il faut euthanasier les rentiers. C'est exactement ce qu'il disait. Si on le décline de manière un peu plus modérée fiscalement, ça veut donc dire éviter déjà que les inégalités se forment au point qu'une classe de rentiers apparaisse. Une classe de rentiers, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vit pas de ses revenus de travail, mais du revenu du patrimoine qui est évidemment important, qui va se transmettre de génération en génération. Et d'ailleurs, de longue date, la transmission du patrimoine est l'activité favorite des classes les plus aisées. Il s'agit de jouer de toutes les possibilités qu'offre la fiscalité ou le droit civil pour transmettre du patrimoine en franchise d'impôts, jouer des abattements. Et c'est un sujet d'ailleurs extrêmement intéressant et sensible, où on voit que la réaction de l'opinion parfois est comment dire, décalée par rapport à la réalité. Je m'explique. Quand Nicolas Sarkozy avait dit en 2006-2007 « Si je suis élu, je vais supprimer les droits de succession pour la quasi-totalité des Français », il était plutôt suivi dans l'opinion. Mmh. Or, il y avait plus des trois quarts des successions qui étaient d'un montant tellement faible qu'elles n'étaient pas imposables. Et c'est exactement l'argument qu'en 2005, George Bush avait employé en disant « Je vais supprimer les droits de succession que 95% des Américains de toute façon ne payaient pas ».
Donc on voit bien le décalage entre les représentations,
la perception
et
la réalité. Et donc, ça contribue évidemment par suite à opérer des choix qui bénéficient d'une minorité. Avec le recul, ça se voit. Dans la même idée, le bouclier fiscal, à l'époque, n'était pas vraiment contesté, parce que quand on disait, on paye 60 ou 50%.
Il faut rappeler pour les auditeurs, Nicolas Sarkozy, qui avait voulu donner un maximum de 50% sur la taxation
des... C'était sur le gouvernement Villepin, le premier bouclier fiscal à 60%, et Nicolas Sarkozy l'avait descendu à 50% avec l'argument, on ne peut pas donner plus de la moitié de ce qu'on gagne à l'État. Appliqué à chacune des situations de l'ensemble des Français, la majorité d'entre eux disaient oui, effectivement, moi, si je donnais plus de 50%, il me resterait rien pour vivre. Sauf qu'on ne parlait pas des mêmes catégories.
Alors, il y a un autre impôt qui me paraît important, ce sont les droits de mutation, donc ces taxes perçues par le notaire au moment d'un achat immobilier, perçues pour le compte de l'État et des collectivités locales. Ces droits de mutation, là encore, leur objectif, c'était de jouer le rôle, un rôle de redistribution des richesses. Comment est-ce que cela fonctionne, Vincent Drezet ?
De redistribution presque de régulateur du marché immobilier, parce que si on supprimait les droits de mutation aujourd'hui, on assisterait à une envolée des prix. Parce que le gap serait compensé, si j'ose dire. Or là, le fait que l'État en prenne une partie, ça permet, notamment aux collectivités locales, de leur injecter 11 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien pour financer les services publics locaux. Et là aussi, lorsqu'on achète un bien immobilier, il faut tenir compte dans le budget des 7,5% de droits de mutation. De la même manière, il y a aussi des droits de mutation à titre onéreux sur d'autres transactions comparables. Donc c'est aussi avoir à un moment donné, quand le patrimoine change de main, une forme de droit de péage qui va profiter à la collectivité. Il y a une forme de retour sur investissement aussi, dans le sens où lorsqu'il y a un bien immobilier qui a bénéficié de l'investissement public dans les environs, parce qu'il y a eu un dynamisme, ça s'est ressenti un petit peu sur sa taxe foncière, et puis ça va se ressentir au moment de la mutation. Et juste un exemple pour montrer aussi qu'il y a une forme de méconnaissance, un bien ancien est vendu avec des droits de mutation à titre onéreux, et on considère dans l'imaginaire collectif que c'est plus cher qu'un bien neuf, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de droit de notaire. On oublie juste de dire qu'il y a la TVA qui est inclue dans le prix et qui est beaucoup plus importante que les droits de mutation. Fait partie des petites idées fausses qui circulent sur la fiscalité.
Alors on le voit, l'efficacité de l'impôt se pose sur le plan économique et puis aussi sur le plan de la cohésion sociale. Ce que vous constatez, ce que vous avez constaté, Michel Forcé, c'est que le diagnostic de l'injustice fiscale semble faire consensus au sein de la population et plus encore peut-être depuis la crise de 2008.
Oui, il y a des consensus qu'on arrive à trouver. Effectivement, il y a un consensus sur la progressivité. On voit que c'est une opinion qui est partagée, qui est largement partagée, à 100%.
Mais la majorité pense qu'un impôt juste, c'est un impôt progressif.
Oui, ça, c'est très, très largement partagé. Et on le voit même en leur posant pas directement la question. On le voit en leur faisant quasiment calculer eux-mêmes des impôts, etc. Et en voyant à quelle progressivité on arrive, en le calculant de façon technique, et on voit bien qu'il y a ce consensus. Il y a ce consensus aussi, bien sûr, sur le fait que la fiscalité est, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, est injuste. Et ce qu'on trouve, c'est quand même que c'est un consensus, mais quand même ceux qui sont le plus à le dire, ce sont les plus pauvres. Alors c'est vrai que ça pourrait être un peu une surprise, puisque c'est pas pareil, ils sont pas soumis à l'IR en général, enfin c'est peu probable. Mais enfin ils payent la TVA, ils payent la TICPP, ils payent d'autres taxes bien entendu. Donc ce sont les plus pauvres qui pensent le plus que la fiscalité est injuste, mais il y a quand même on le trouve dans toutes les catégories.
Alors on va le voir justement, le fait que ce sont plutôt les classes populaires qui s'opposent le plus à l'impôt, c'est ce que nous explique le sociologue Alexis Spire.
C'est une vraie surprise, c'est de voir que l'impôt qui est en fait en France, qui est encore quand même un outil du modèle social, qui est encore un outil de réduction des inégalités dans la capacité redistributive qu'il donne à l'État, est dénigré par ceux qui seraient censés en profiter ou en tout, par, justement par le biais de la redistribution. Et donc là, c'est une vraie interrogation qui rejoint un peu des interrogations de sociologues américains sur pourquoi les pauvres votent à droite. Les réponses, ou en tout cas les clés d'explication que j'apporte, sont de plusieurs ordres. Mais la première, c'est d'abord une plus grande méconnaissance justement des formes de redistribution et des formes d'intervention étatique. Des formes d'injustice fiscale qui sont très fortes. Hein, et encore, quand j'ai enquêté, on était en février 2017, on n'avait pas encore eu la suppression de l'impôt sur la fortune, qui dans l'enquête apparaît comme étant considéré comme l'impôt le plus juste pour l'ensemble des enquêtés, donc ça doit être encore plus fort aujourd'hui maintenant que ce gouvernement a décidé de le supprimer. Mais d'une manière générale, il y a un très enfin en bas de la société, dans ces classes populaires, il y a un très fort sentiment d'injustice fiscale qui se vit comme un sentiment anti-impôt en fait. Et il y a une assimilation entre les deux sur l'idée que dénigrement de l'impôt, parce que l'impôt est considéré comme injuste, et d'ailleurs parce que au sein de ces classes populaires, souvent on n'a pas le choix, et cette contrainte en fait, elle est justement, elle renforce encore plus le ressentiment politique.
Voilà, donc on entend bien chez les plus pauvres ce sentiment d'une injustice fiscale qui se traduit par un rejet global de l'impôt, Michel Forcé.
Oui, alors il y a les raisons qu'évoque Alexis Spire qui sont tout à fait réelles. Il y en a d'autres, je crois. C'est que on a aussi le sentiment que on paye un impôt pour recevoir quelque chose en échange, et notamment des services publics, etc. Et dans nos enquêtes, on posait la question de l'éloignement vis-à-vis des services publics. Est-ce que vous avez le sentiment d'être éloigné des services publics ? Et on voit bien cette corrélation très forte entre, non pas le rejet de l'impôt, mais ils ont la critique de l'impôt et le fait qu'on se sente de plus en plus éloigné des services publics. Ça, c'est quelque chose de fort dans l'enquête.
Alors, ça rejoint aussi d'autres éléments. Est-ce que le consentement à l'impôt ne passe pas par une meilleure connaissance de la façon dont l'impôt est utilisé, et voilà, il est plus facile de payer ses impôts quand on se rend compte des services publics auxquels ils nous permettent d'accéder, et quand on le voit aussi très concrètement, Vincent Drezé.
Oui, et d'ailleurs, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a eu un retournement avec la crise. C'était là que sous l'impact des politiques de rigueur, le sentiment était de dire on va payer une dette dont on ne se sent pas responsable, avec une structure fiscale perçue, nous on dit comme à juste titre, hein, comme étant injuste, tout en voyant l'éloignement des services publics. Et donc de ce point de vue-là, en milieu rural, c'est assez terrible, ou en milieu périurbain, c'est assez terrible. J'ajoute que nous, on le mesure concrètement, nos collègues à l'accueil le mesurent concrètement. Ce que Pierre Moscovici a dit, le ras-le-bol fiscal, en réalité, bon, mais ce mécontentement est tout à fait perçu au moment où ils viennent payer leur impôt ou déclarer leur revenu. Et donc, l'éloignement du service public, mais aussi sa dégradation, parce que parfois on a un service public qui se dégrade, eh bien le sentiment est de dire mais pourquoi je paye ? Voilà. Alors je paye et pourquoi je paye ? Et cette l'impôt-contribution, comme on l'appelle, puisqu'il y a plusieurs théories, souffre énormément de cela. C'est en clair aussi la question de politique de rigueur qui est posée. Et sur les services publics, on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans certains choix gouvernementaux où on veut favoriser d'une certaine manière l'éloignement, la numérisation, etc. Où il y a un décrochage de certaines populations qui maîtrisent mal l'outil Internet, etc. Le risque est à l'avenir de continuer à avoir ce fossé entre ceux qui disent je paye mais je n'ai pas de retour. Même si l'impôt n'est pas assimilé à un prix, il y a tout de même l'idée de retour. Donc s'il y a plus d'inégalités, s'il y a toujours autant de chômage, de précarité et pas de services publics, finalement à quoi ça sert ? Même si on pourrait tout à fait dire, maintenant on peut défendre le principe de l'impôt sans défendre la situation actuelle, dire sans impôt, on peut tout à fait dire, ça voudrait dire que les services publics seraient privatisés, que les entreprises privées qui généraient du profit s'en occuperaient. Et on peut prendre des exemples concrets. Pour envoyer un enfant au collège, ça sera au minimum 8000 euros qu'il faudrait débourser par an. Donc on peut prendre ces exemples-là pour justifier l'idée de l'impôt, mais n'empêche que la situation réelle qui s'aggrave, c'est plutôt ce sentiment d'éloignement et de critique de plus en plus forte de l'impôt, de l'État, enfin bref, et ça rejoint aussi ce qu'on appelle la crise démocratique qui emporte parfois les mouvements politiques.
Alors on parle de cette défiance envers l'impôt, envers l'État, cependant c'est un chiffre intéressant, 57% des Français déclarent avoir le sentiment de faire un acte citoyen lorsqu'ils payent leurs impôts, donc cette idée d'un contrat fiscal, elle est tout de même bien ancrée en France, oui, Michel Forcé.
Oui, elle est tout à fait bien ancrée, là aussi évidemment ça dépend quand même un peu des catégories sociales, c'est ce contrat fiscal fiscal, cette idée d'un contrat fiscal, on la rencontre d'autant plus qu'on s'élève dans la hiérarchie sociale. C'est plutôt les cadres supérieurs et puis ensuite les professions intermédiaires. Donc, mais malgré tout, c'est quand même un sentiment majoritaire. Il y a, pour revenir juste à la question précédente de qu'est-ce qui pourrait miner éventuellement le consentement à l'impôt, parce que je pense pas qu'il y a toujours un consentement à l'impôt. On le voit bien dans le fait que les gens condamnent complètement la fraude fiscale, etc. Donc, sinon, on dirait. Il y a deux choses encore qu'on peut ajouter. Il y en aurait plein d'autres, mais pour aller vite. Il y a l'extraordinaire complexité du système qui le rend totalement illisible. Et les gens, finalement, c'est pas qu'ils veulent pas qu'on paye pas d'impôts, mais ils savent plus dans quelle situation ils se trouvent vis-à-vis du fisc. Tout ça est trop compliqué. Et on le voit bien. Je disais tout à l'heure que les gens avaient une méconnaissance du système. Bon, on peut poser une question comme est-ce que vous pensez, quand vous êtes concubin, que vous aurez les mêmes droits au moment de la succession, le décès de votre conjoint, que si vous étiez marié? Les gens disent oui, bien sûr. Bon, évidemment, ils se trompent complètement. Enfin, voilà. C'est un système qui est devenu très compliqué, avec toutes ces niches fiscales pour ce qui est de l'impôt sur le revenu qui fait qu'il est illisible, etc.
Et vous parlez d'une deuxième raison?
Alors, il y a une autre raison. C'est le sentiment qu'il ne faut pas qu'il y ait de fraude, donc. Mais on constate qu'il y a quand même des gens qui, d'une façon, échappent à l'impôt, parce que soit ils fraudent directement, soit il y a de l'économie grise, soit, enfin, à l'impôt, aux taxes d'une manière générale, en l'occurrence aux taxes sociales, soit ils font de l'optimisation fiscale pour ce qui est des plus aisés ou des sociétés les plus élevées.
Donc la médiatisation croissante de l'optimisation fiscale, notamment des entreprises, contribue à ce déni du consentement.
Alors, si le sentiment se répand, comme c'est le cas, qu'il y a de plus en plus de situations dans lesquelles on échappe finalement à l'impôt, alors on dit l'impôt il est injuste, parce que bon, alors pourquoi j'y échapperais pas aussi, enfin bon, voilà.
Vincent Drezé.
Ah ben alors, ça fait une dizaine d'années que les affaires de fraude fiscale ou d'optimisation agressive se multiplient. Et indubitablement, ce sont des remarques, encore une fois, que les contribuables tiennent, mes collègues vérificateurs, lorsqu'on y va dans une entreprise, ils disent, écoutez, voilà, sur tel ou tel point, il y a un redressement. Ils disent, mais enfin, vous venez m'embêter, on va le dire comme ça. Mais regardez, les GAFA pour l'optimisation agressive ou tel ou tel type d'affaire de fraude fiscale. Ça mine les acteurs économiques parce que ça provoque des pertes budgétaires. Ce sont des ressources qui manquent à l'action publique. Ça fausse la concurrence aussi entre l'activité économique. Bref, ça n'a que des conséquences négatives et ça ne fait que participer à l'éloignement de consentement à l'impôt. La complexité, absolument, j'ajoute aussi parfois l'instabilité, y compris sur des acteurs économiques sincèrement, qui veulent investir leur argent. La complexité, l'instabilité ne jouent pas en la faveur d'une politique fiscale comprise, même si personne s'y oppose, du fait que, et par conséquent, il y a une forme de consentement, mais qui est fragilisée.
Vous disiez tout à l'heure, Vincent Drezé, que le système fiscal français n'était pas assez progressif, mais alors, si on compare la France avec d'autres pays européens, on constate que le niveau d'imposition français est le plus élevé et que la France est aussi l'un des pays qui a le plus réussi à réduire ces inégalités. Donc c'est quand même des résultats qui vont dans le sens d'une certaine efficacité du modèle de redistribution français.
Sur le mouvement long des inégalités, c'est une réalité que les inégalités sont moins développées qu'ailleurs, mais ça rejoint la question du niveau des prélèvements obligatoires, parce que dans les prélèvements obligatoires, plus de la moitié sont les ressources du système de protection sociale, qui est particulièrement développé en France, alors que par exemple, dans d'autres pays comme aux États-Unis, il faut prendre des assurances privées. Donc, il y a des prélèvements privés, mais qui ne sont pas comptabilisés dans les comparaisons. Et donc, c'est ça, le cœur du débat sur les prélèvements obligatoires, il porte notamment sur le système de sécurité sociale. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est pas tant qu'historiquement, il y a plutôt moins d'inégalités, parce qu'il y avait quand même des services publics gratuits, parce qu'il y avait quand même une protection sociale, malgré un impôt sur le revenu anormalement bas. C'est surtout l'orientation qui est prise depuis quelques années, qui produit des résultats en termes d'inégalité et de dégradation du consentement à l'impôt.
Un dernier mot, Michel Forcé, sur peut-être l'impôt idéal. Ce serait un impôt universel et progressif sur le revenu et un impôt qui gagnerait en lisibilité. Ça, c'est pour vous une priorité absolue?
Oui, un impôt progressif, vraiment progressif, un impôt effectivement plus simple. Tout à fait, je rejoins aussi un impôt, pas des règles qui changent tous les quatre matins. Bon, j'exagère un peu, mais enfin, un impôt plus stable, qui peut pour des tas de raisons. Je crois que c'est effectivement un souhait que les gens ont dans les enquêtes.
Eh bien, un grand merci à tous les deux. Ce sera le mot
merci.
De la fin. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur l'épineuse question de la justice fiscale posée par la hausse des prix du diesel.
Mais oui, la hausse des prix du carburant et les réactions qu'elle provoque semblent être une manifestation particulièrement pertinente de ce tâtonnement incessant du politique pour aboutir à un équilibre entre efficacité économique, écologique et impératif de justice sociale. Si la hausse des prix du diesel à la pompe est en partie due à l'augmentation des cours du pétrole ces derniers mois, c'est bien la décision d'augmenter les taxes sur les produits énergétiques, diesel, essence et fioul, qui cristallise aujourd'hui la colère des Français. Décidée sous le quinquennat Hollande, cette hausse des taxes devait permettre d'aligner les prix du gazole sur l'essence avant d'augmenter le prix de tous les carburants, la fameuse contribution climat-énergie ou taxe carbone, afin de faire baisser leur consommation et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.
La taxe carbone devait également permettre de limiter la pollution aux particules fines liées à l'usage du diesel.
Exactement, mais en dépit de l'évidente nécessité de diminuer le recours à la voiture responsable d'une part non négligeable de la pollution de l'air, cette baisse ne peut se faire par un simple coup de baguette fiscale. Certes, comme l'explique le prix Nobel d'économie Jean Tirole, le fait d'augmenter les prix reste l'un des instruments les plus efficaces pour tordre les habitudes et comportements des consommateurs, mais c'est justement le recours à ce type de rhétorique qui participe à rendre impopulaire toute politique de lutte contre le changement climatique. Une politique d'autant plus impopulaire qu'elle apparaît imposée de manière unilatérale, sans concertation ni dialogue social et sans compensation financière pour les personnes les plus pauvres. Car si la taxe carbone est un outil utile afin de faire évoluer nos pratiques, elle ne peut se suffire à elle-même et doit participer d'une remise à plat complète de notre système fiscal.
Un système français complexe, comme on l'a dit, et pas toujours très cohérent.
Non, effectivement. Comme le pointait la Cour des comptes dans un récent rapport, le poids des dispositifs fiscaux préjudiciables à l'environnement est aujourd'hui plus fort que ceux qui lui sont favorables, pointant notamment le traitement fiscal préférentiel du diesel. Elle dénonçait plus largement le risque d'une profonde remise en cause de ce système fiscal. Le gouvernement ne peut donc se satisfaire aujourd'hui d'augmenter la fiscalité sur les carburants en expliquant doctement que cela conduira à un changement des pratiques. Car dans bien des cas, le recours quotidien à la voiture individuelle a été rendu inévitable par l'organisation spatiale du territoire et de l'économie. Une situation encore aggravée par la fermeture des services publics et des commerces de proximité, ainsi que par l'extinction progressive des petites lignes de train et autres alternatives de mobilité jugées trop onéreuses. En clair, les personnes qui n'ont d'autre alternative que de prendre leur voiture pour aller au travail, pour faire leurs courses ou régler des problèmes administratifs sont aujourd'hui captives de cette hausse des prix et n'ont donc d'autre solution que de payer plus, une logique particulièrement injuste donc.
D'autant qu'on ne saurait limiter la question de la pollution à l'usage de la voiture individuelle.
Non, et si bien sûr la transition doit être portée par chacun d'entre nous, cette démarche du consommateur acteur du changement ne doit pas servir d'écran de fumée permettant la perpétuation d'un système économique productiviste et carboné. Car il est toujours plus simple d'augmenter la fiscalité quotidienne des citoyens que de mettre en place une taxation adaptée sur le transport de marchandises aériens, maritimes et routiers, qui joue pourtant un rôle fondamental dans l'émission de gaz polluants. Il est plus simple d'attendre que la grogne citoyenne passe que de remettre en cause un modèle économique insoutenable mais néanmoins si confortable. Et l'argumentation est bien rodée. Augmenter la fiscalité de ces acteurs, c'est se tirer une balle dans le pied dans une économie compétitive et mondialisée, s'assurer la chute dans les limbes de la non-croissance, le désastre en somme. Un désastre que nous ferions pourtant bien de penser avec un peu plus de courage si nous ne voulons pas nous faire rattraper collectivement par le véritable désastre qui vient, écologique et politique. I got my income tax this morning. Yeah, and it got to be paid. I got my income tax slip this morning. Yeah, and it's got to be paid. It's a shame, notice tax my boss has made. Tax on my electric, tax on my gas, soupy paying tax balls on my, yes, I got my income tax slip this morning, yes, it got to be paid. It's a shame, notice tax my boss has made. I ran a five-pack of cigarettes, taxes up 3 cents. Walked out my backyard, that put a dog on tax on my fence. I got my income tax this morning. Yes, it's got to be paid. It's a shame, notice tax my boss has made. Tax on my electric, tax on my gas. Soon be paying tax balls on my, yes, I got my income tax this morning. Yes, it's got to be paid.
On se quitte sur le blues de l'impôt sur le revenu, Income Tax Blues du chanteur et guitariste américain Ralph Willis. Merci beaucoup Michel Forcé. Je rappelle votre livre « L'égalité, une passion française » publié chez Armand Collin. Et merci à vous Vincent Drezet, vous êtes l'un des auteurs de cet ouvrage que je citerai également « Toujours plus pour les riches, manifeste pour une fiscalité juste » paru au Lien qui libère. Demain on parlera de la grande évasion fiscale avec Alain Deneau et Jean de Maillard. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast et à nous rendre visite sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.